Nous allons donc arriver maintenant à la discussion sur le bilan du festival Kinotayuk, dont la 10e édition s'est tenue donc le mois dernier à Paris et continue jusqu'en février, et a proposé un panorama du cinéma japonais contemporain. J'aimerais bien faire également un premier tour de table pour savoir quelles sont vos premières impressions, comme ça, quelques jours de la clôture sur ce festival. Sidi, t'as vu 3, 4, 5 films ?
3
films,
ouais, qu'en as-tu pensé ? Malheureusement, pas pu y aller plus. Et voilà. Bah moi, je crois que j'ai vu des global. Enfin, je crois que j'ai vu pas les pires films de la sélection. J'ai notamment vu Kabukicho Love Hotel de Hiroki Ryuchi, qui a été vraiment une belle découverte. J'ai vu aucun de ses films, alors qu'à ce qui paraît, c'est vraiment un cinéaste très prolifique. Et voilà, on va appeler ça quoi, un film choral. Voilà, on a 3 groupes, je crois, de couples, 3 couples, voilà, un couple qui se cache, hein, des gens voilà, qui sont recherchés par la police, un couple de 2 jeunes immigrés coréens voilà, qui s'interrogent sur la suite de leur séjour, et puis un couple de 2 jeunes japonais dont le couple est en crise. Donc au début, c'est vrai que j'ai mis peut-être un bon petit quart d'heure avant d'entrer dans le film.
Il y en a un quatrième.
Le couple de policiers, en fait.
Ouais. Ah oui, qui arrive un peu plus tard.
Bug, voilà. Dans la présentation, il n'y a que les 3.
Je voulais dire que j'ai vu le film.
Voilà. C'est vrai qu'au départ, pendant peut-être un petit quart d'heure, j'avais eu un petit peu de mal à me situer. Je ne voyais pas trop les enjeux. Et puis au fur et à mesure, il a vraiment un talent pour réussir à nouer ses histoires, à réussir à les faire exister de manière très autonome chacune, et quand même réussir à les faire se croiser. Le personnage central dont on parlait tout à l'heure est un jeune homme. Un acteur assez fameux,
Shota Sometani. Shota Sometani.
Voilà, qui est là, quoi. Et qui joue, on va dire, il est à l'accueil, quoi. Il est à l'accueil du fameux Love Hotel, et il est un peu central. C'est autour de son regard que vont.
Faut peut-être dire ce qu'est un Love Hotel, peut-être, pour ceux qui.
C'est un hôtel de rencontre amoureuse.
Voilà.
C'est assez spécifique, quand même.
Ah, en fait, pour ajouter, en fait, dans les cultures japonaises et coréennes, ça marche aussi, en fait. Traditionnellement, quand les couples ne sont pas mariés, en fait, ils peuvent pas forcément cohabiter ensemble. Donc pour faire leurs petites affaires, ils vont dans des love hotels. C'est plus simple pour tout le monde. Et en général, c'est des hôtels qui coûtent pas cher, et voilà.
Ok, et voilà. Et voilà, et donc ce sympathique jeune homme qui fait partie donc de l'un des 3-4, disons, couples principaux. Il a une copine musicienne qui à un moment va venir au Love Hotel, et ça va créer une séquence assez drôlatique dans laquelle il va à la fois garder sa fonction et puis en même temps être assez anxieux de savoir ce que va faire sa copine avec ce producteur, je crois.
Alors c'est pas ça, la seule proche qu'il va croiser, enfin, on en dit pas trop, mais c'est pas la seule proche qu'il va croiser dans le
Love
Hotel. Ah oui, il y a sa sœur aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de personnages. C'est sa sœur qui est actrice porno, il y aura une assez bonne séquence.
Tac, il a tout se spoilé.
Allez, on dit tout.
En même temps, c'est
un personnage meurt vers la fin.
Oui, voilà.
Voilà, non, voilà, il y a.
En tout cas, je tiens à préciser une chose, c'est que la jeune femme, donc, qui c'est sa copine, est jouée par l'interprète. Et Atsuko Maeda, qui est donc une idole extrêmement célèbre au Japon, puisqu'elle est l'ex-meneuse de revue des AKB48, qui a maintenant, comment dire, fait une carrière solo, qu'on en a vu en fait, dans pas mal de films indépendants japonais, notamment chez Kiyoshi Kurosawa, à 2 reprises l'année dernière, qui a fait Sekino Taiyo.
Des Kurosawa très mignon.
Oui, certes, mais en tout cas, elle était très très bien dans les 2 rôles qu'on lui proposait.
Par contre, ça se ressent que c'était une idol, parce que physiquement, on sent ça se dénote. Tous les autres personnages ont des physiques quand même de à peu près tous les jours, et elle. Un côté un peu
stylisé. Les physiques de tous les jours.
Tu la sens plus.
Ils ont l'air plus naturels. Ils ont l'air beaucoup plus naturels que elle. Je me doutais que ça devait être une idole.
Mais en tout cas, ce qu'il faut quand même dire.
Je dis pas qu'elle joue mal, hein, mais.
Je trouve que, en tout cas, par rapport à ses petites consoeurs, elle fait vachement d'efforts, d'une part, pour choisir des rôles, des films qui sont pas forcément des espèces de grosses locomotives pour avoir du succès, mais elle cherche des rôles qui sont assez complexes, pas faciles, et qui jouent pas forcément uniquement sur son joli moi, qui est
très jolie, hein, faut l'avouer. Maintenant, elle n'a pas forcément, en effet, le charisme et la prestance d'une Fumi Nikaido, voilà, qu'on parlera pas tout à l'heure, ou Sakura Ando, qui a... Voilà.
C'est pas le même rôle.
Oui, qui n'est pas le même rôle, mais Sakura Ando, vraiment, là, pour le coup, c'est l'une des grandes actrices de cette nouvelle génération d'actrices. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, pour la petite pop star qui s'essaye, comment dire, au jeu d'actrice, elle fait des choix qui sont vraiment pertinents et je pense qu'elle va grimper très vite.
Donc, c'est voilà. Intéressant qu'elle aille vers le cinéma indépendant, vers le cinéma d'auteur.
Elle a
commencé chez Nakata aussi. Oui.
Comme quoi, on peut commencer chez Nakata et bien finir. Un peu d'espoir pour l'actrice.
Je pense pas.
Qui est aussi une des leaders.
Oui, mais en même temps, c'est nombreux.
C'est l'actuelle leader en fait, qui a succédé à Maeda Tsuko, justement.
Ouais, bah, pour l'instant, ça se profile un peu plus mal pour elle, mais bon, oui. À voir.
Un peu nul, hein.
Non, mais c'est. J'ai cru entendre que ce film a failli être récompensé et que.
À 0,5 points près, il était. Ouais. Parce qu'il y a eu deux lauréats qui étaient à 1 centime. Et donc, vu que le voté était juste derrière à 0,5 points près.
Donc, parlons du palmarès alors pour le coup de Kinotayo. Donc, je vais d'abord dire le palmarès et ensuite je vous laisserai le commenter. Donc, le Soleil d'Or a été donné ex aequo à Kakekomi et La 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 à Throck Bottom. Fire on the Plain de Tsukamoto a eu le prix de la meilleure image et enfin il a eu une mention spéciale, le prix de la meilleure image pardon, et le prix de la critique également donc du jury presse pour Fire on the Plain de Tsukamoto et la mention spéciale a été donnée à 100 Yen Love donc,
surtout à son actrice
c'est... oui surtout à son actrice
un prix spécial pour l'actrice
voilà.
C'est quoi Ando?
Voilà. Est-ce que à votre Martin, par exemple, ça représente les meilleurs films qu'on a pu voir cette année?
La Rock Bottom, je trouve le film très sympathique. De là, le film a un prix, pense pas. Voilà.
Je crois qu'il est pas génial.
Moi, je trouve agréable. Mais après, voilà, c'est comment dire, c'est un véhicule pour l'acteur principal qui est un chanteur pour Midinette. Voilà.
Ça se sent surtout.
Oui. Voilà. Non, mais voilà, par rapport, enfin, j'ai vu qu'une amie japonaise qui m'a dit que par rapport à d'autres de ce genre-là, il a quand même la vraie voix.
Voilà. Enfin, ils ont toutes la même voix en fait.
Un peu doucereuse.
Ils ont à peu près tous la même voix quand même.
Voilà, moi je n'écoute pas donc je peux pas vous comparer en tout cas. Voilà.
Parce que la musique du film est très médiocre.
Oui, voilà. Et le pire c'est qu'elle reste en tête.
Oui.
Voilà. Non, ça va, pour moi elle est plus passée, voilà. Fort heureusement. Voilà, l'idée est plutôt sympathique, pas désagréable. Alors bon, lui, qui fait beaucoup appel au festival
L'idée, c'est un espèce de gangster qui se prend un coup sur la tête en sortant de...
Il est amnésique, et puis il est recueilli par une jeune femme qui, en vérité, tient un studio qui a loué, voilà, et elle gère un groupe de musique. Et ce type-là s'avère avoir une très belle voix, et elle va décider de le monter comme le leader de ce groupe.
Et il retrouve peu à peu sa mémoire.
Exactement, voilà. Bon, il y a un petit côté, en effet, un peu avec Chris Maki, voilà, faut le dire vite fait.
Le réalisateur, c'était Nomohiro Yamashita, qui d'ailleurs avait fait l'année dernière le film avec Atsuko Maeda, dont on parlait.
Oui, exactement, et qui l'année précédente avait réalisé Drug Retrain aussi.
C'était Tamako.
Oui,
c'était bien.
Qui se spécialise un peu dans les films de commande de popstar.
Exactement, voilà. Bon, il fait des petits films indépendants, un peu désagréables, mais voilà, de là, il lui file un prix, il n'y a rien d'extraordinaire à sa mise en scène. Bon, ok, Fumi Nikaido est très très bien dans le sens où elle joue une jeune lycéenne qui a dû abandonner les études pour reprendre l'affaire de son père qui était décédé. Et elle arrive à garder à ce côté très adulte dans un costume de Sailor. J'ai trouvé ça très fort.
Pour moi, le film tient que sur ses épaules, en fait.
Oui,
voilà. Finalement, c'est pas le personnage principal.
Et voilà, donc.
Elle fait de l'ombre, en fait, au personnage principal.
Oui, c'est un peu ça.
Donc, ce qui montre que c'est une très bonne actrice.
Mais que lui n'est pas très bon acteur.
S'il y a quelque chose qu'on peut. Justement, t'en parlais, s'il y a quelque chose d'intéressant qu'on peut tirer du film, c'est cette idée de poids. Par la transmission que peuvent avoir des fois les jeunes générations par rapport à leurs aînés. Mmh. Bon, par exemple, elle, forcément, qui a arrêté ses études pour reprendre pour s'occuper déjà de son grand-père qui est... Il
est sénile, il est vieux.
Voilà, et puis pour reprendre le studio, machin. Lui qui est au final est tombé dans le. Enfin, qui est devenu un gangster.
Un gangster. Ouais.
Enfin, c'est pas vraiment un gangster, c'est un.
Un voyou.
Là-bas, tu sais, ceux qui s'occupent des dettes. Qui vont
dégérer les dettes de son père en fait, voilà, quand il est décédé.
Et lui, justement, c'est à partir de là, à la base, que sa famille, qui était rempli de dettes et puis sa tante qui a été obligée de racheter aussi la boutique
sa sœur qui garde son enfant,
qui garde son enfant, la tante de son enfant, ouais, tout.
Oui, donc voilà pour Lala Trogbottom, qui est le film donc qui a eu le Soleil d'Or, mais ce n'est pas le seul. Le Soleil d'Or, pour le rappeler, c'est le film à Kinotayo. À chaque fin de séance, on nous demande de voter, donc de donner une note sur 10 à chacun des films. C'est comptabilisé, il y a une moyenne qui est faite, et cette année deux films sont sortis ex aequo, donc le film dont Nicolas vient magnifiquement de parler, La Trogbottom, et l'autre film, c'était Kakekomi, donc qui a plutôt fait l'unanimité, ou presque. Nicolas, je te rends la parole pour parler de ce film en costume.
C'est pas assez court à expliquer. En fait, c'est l'histoire donc de deux femmes qui donc sont un peu soumises au patri. Tu vas m'aider un peu les épaules.
Le film se situe à l'ère Meiji.
Voilà.
À la fin de l'ère Meiji.
Voilà. Et donc à l'époque, évidemment, c'était les maris entre guillemets qui décidaient un peu de tout. Et donc c'était l'histoire de Kakekomi, c'est donc ces deux femmes qui à l'époque se sont enfuies de leur foyer pour devenir des Kakekomi, c'est-à-dire des femmes qui rejoignent un espèce de temple,
un sanctuaire
pour être protégées de leur mari entre guillemets jusqu'au divorce. Et donc ces sœurs, je sais pas si on peut appeler ça des sœurs,
Oui, c'est des bons S.
Des bons S. Qui envoie en fait un message ou
un intermédiaire, pour plaider leur cause.
Leur cause et pour convoquer leur mari pour signer les papiers de divorce au bout de deux ans,
oui, c'est ça. Ouais. En contrepartie, elles effectuent des travaux au sein du monastère.
Voilà. En gros, ça part de là. Donc,
C'est le nouveau film de Masato Rana, qui on en a parlé déjà tout à l'heure dans le podcast, qui est un cinéaste indépendant mais assez important dans le paysage japonais.
Alors, indépendant avant, parce que là c'est quand même une production de la Shochiku.
Oui, voilà.
Il a assez d'argent quand même pour faire un film en costume qui est plutôt bien léché au niveau de la
photographie. Mais là-dessus,
donc,
oui.
Il a dit une bonne chose sur le quand film. Même pour des studios. C'est pas forcément un point positif, mais c'était pour tempérer ce côté...
Enfin, en tout cas, il vient du cinéma indépendant, maintenant il travaille en effet au sein des grands studios japonais. C'était déjà le cas pour son précédent qui a été présenté, je crois, il y a deux ans à Kinotayo aussi.
C'était quoi ?
Je ne me demande plus le titre, mais le film était très bien et je crois d'ailleurs qu'il avait gagné le prix, hein, si je ne me trompe pas. Donc voilà, non, c'est vraiment un cinéaste très, très, très intéressant. Et là, il nous revient vers une espèce de fable, on va dire, féministe en costume. Donc voilà. Autant que je me souvienne, parce que j'ai vu pas mal de films depuis, c'est quand même un film qui est en effet très classique, de facture très classique, adapté d'un roman, et on va dire, je pense que son menu défaut est de vouloir tout compenser en un film de deux heures. Il y a quand même beaucoup de personnages principaux. Enfin, c'est, en tout cas, il y a trois personnages féminins. Mmh. Il y en a d'autres qui vont se greffer à peu près à peu l'histoire. Et il essaye de traiter tout à peu près de manière égalitaire. Et les scènes, en fait, s'enchaînent de manière très courte, très, très condensée. Mais finalement, il en ressort quelque chose d'assez fort, je trouve.
Alors là, tu me tends des perches, parce que c'est vrai qu'il y a cette impression dans le film... d'un sujet qui est passionnant, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, comment une femme japonaise peut divorcer et elle est obligée de plaider son cas dans un espèce de sanctuaire où elle va se couper du monde pendant deux ans, et si son désir de se séparer de son mari est aussi grand qu'elle peut supporter toutes ces épreuves, le divorce peut être acté. Ouais. Et en même temps, il y a des implications politiques, parce que dans cette période de transition au Japon, avec des influences occidentales qui arrivent, qui sont bloquées de l'autre côté par une politique intérieure, ces traditions vont être malmenées. Donc
il y a tout ça. Arriver les censeurs au pouvoir.
Qui est passionnant. Après, le film, effectivement, moi je trouve qu'il se perd dans cette espèce de portrait complet de ce que peut être différents aspects, de ce que peut être une femme au Japon à l'époque.
Chaque personnage est un archétype, de ce qu'on peut trouver, soit la femme battue et tout. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que d'une part, on voit vraiment un Japon, en tout cas un Japon féodal en fin de cycle, c'est-à-dire que le personnage du samouraï est représenté comme un espèce de type hyper violent.
Oui, il y a aussi une femme samouraï.
Exactement. Il y a plusieurs cas, mais en tout cas, c'est pour resituer, c'est-à-dire que généralement, la fin de l'ère Meiji est une époque où on aime bien traiter des samouraïs, parce que c'est une époque où on les traite de manière très romantique, parce que c'est le moment où ils vont disparaître et qu'ils vont donner la dernière charge, tu vois, pour exister et faire perdurer leur ère de
Tokugawa.
Exactement, oui.
Quand je parle du dernier samouraï, c'est pas innocent, parce qu'on retrouve un peu le même académisme dans l'utilisation de la musique, dans ce décorum.
C'est moins cliché quand même que. C'est moins
cliché parce que c'est japonais.
Masato Harada est frappé dans le dernier samouraï.
Oui, aussi. Voilà.
Mais, non, mais juste pour compléter, moi ce que je trouve passionnant,
il était à l'école d'Edgar Zwick, donc
au-delà du sujet, ce que
c'est pas mauvais, mais voilà, ça reste très très académique.
Oui, non, mais d'accord, là je suis d'accord avec toi, mais pour ce qui concerne donc Kakekomi, ce que je trouve passionnant justement, c'est de voir qu'à la base, le film qui est classique, mais il y a des films classiques qui sont magnifiques. De voir que
t'es un. Je parle d'académisme, mais... je parle pas de.
Non, je suis pas d'accord, justement. C'est de partir justement d'une situation qui pourrait être académique, qui pourrait être. Rester très classique, un espèce de grand tableau de toutes les archétypes de femmes à l'époque qui pouvaient subir ce genre de traitement et devenir des kagekomi, entre guillemets, mais de voir comment la machine va se dérégler peu à peu, même au sein du monastère, comment elles vont aussi imposer quelque chose à par leur caractère au fonctionnement du monastère, par exemple. Et moi, je trouve ça passionnant de voir comment la femme arrive à prendre le pas sur un système patriarcal dès un premier temps, et surtout sur ce système aussi de monastère, de voir que c'est finalement la femme qui passe au-dessus du reste au final.
Oui, mais comment est-ce qu'on dépasse ces archétypes pour arriver au personnage? Moi, c'est un truc que j'ai jamais ressenti.
Le personnage, la bronzesse, celle qui tient le monastère, justement, il y a un secret en elle.
Pour le coup, ça aurait pu rester l'archétype de la mère supérieure, super sévère, machin, alors que pas du tout, justement. Pas.
Oui, c'est vrai.
En plus, elle enseigne l'art du tir à l'arc et tout, donc il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes là-dessus. Il y a aussi un personnage qu'on voit très peu, mais en filigrane, mais qui est le personnage en fait, qui au début on va qui trahit enfin qui fait l'indique et qui est une femme qui a été mutilée, elle a plus de main. On devine, oui,
ça peut être le pur méchant fourbe.
Exactement, final, et le personnage est beaucoup plus fouillé que ça.
Parce que c'est la question de la rédemption qui est aussi amenée. Oui, et la question de l'introduction du christianisme et du christianisme au Japon à l'époque aussi, donc qui pour moi.
Le truc, c'est que c'est sa mutilation, on ne dit jamais que c'est par rapport à sa. Voilà. Comment dire, à chaque fois, on va être. Parce que on apprendra, en tout cas, une partie de son récit biographique, mais en tout cas, ces mutilations, on a plus l'impression qu'elle a été réprimandée. Parce qu'elle a dû être, comment dire, revendue à un circuit de prostitution, et qu'elle a dû se rebeller, que bon, voilà, à l'époque, c'était assez radical sur ce genre de choses, quoi. Donc voilà, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses, et il y a...
Même si les personnages hommes, quoi, parce que souvent, il y a des films féministes où l'homme est souvent dénigré, ou mi-pubertaire, et même là, il y a un côté, enfin, je sais pas, une espèce d'équilibre, quoi, il y a une ambiguïté, par exemple, bah forcément, il y a le personnage du le héros masculin du film, qui est un peu le, c'est pareil, hein, l'espèce de qui est pas vraiment un héros, d'ailleurs, qui est plus,
oui, plus... Non, mais c'est, d'ailleurs, moi, je trouve que c'est un espèce d'accessoire comique qui moi aussi, pas m'a rebuté, que, quand je parlais
c'est
de...
C'est vrai dur, un peu.
Voilà, bah, d'académisme, oui. De convention, moi, ok, si on reste sur ce film, effectivement... Je connais pas du tout les films qu'a fait avant le réalisateur, donc je ne sais pas d'où il vient, mais par rapport à ça, ce personnage comique du personnage masculin qui est introduit dans le monastère et qui va jouer le rôle de médecin et d'intermédiaire entre l'endroit où
ça apporte des scènes comiques, c'est sûr,
ça apporte des scènes comiques, et je le trouve très voilà, très conventionnel, et il a une histoire d'amour contrariée avec un des deux personnages féminins qu'on trouve là, qui là aussi est extrêmement dans la convention et ne dépasse jamais ce statut de convention. Dire que bien sûr il y a tout qui les oppose, on a quand même envie qu'ils soient ensemble, et ils vont quand même se retrouver ensemble d'une certaine manière, parce que elle va retrouver la fibre de l'écrivain qui est en lui, donc voilà, moi je trouve que tout est amené de manière très à la fois archétypale, et on sort jamais de ces conventions de ce que peut être le film en costume classique japonais un peu noble d'aujourd'hui. Et quand je parlais d'Edgar Zwick et du Dernier Samouraï, dans notamment l'utilisation de la musique qui souligne chaque aspect dramatique, mélancolique ou sentimental du film.
C'est une présumption de la Chochiku, faut pas oublier aussi. Bah, voilà, non, mais,
oui,
mais là, il a un cahier des charges, mais je trouve qu'il a comme des personnages.
Toutes les aspérités.
Voilà, qui il y a quand même suffisamment de subtilité dans le film, qui font qu'en fait, il arrive comme à élever son. Moi, les petites choses en fait, que je regrette, c'est que des fois, je trouve que sur certaines scènes, il a tendance un peu à surdégouper.
Oui. Les scènes d'action, par exemple, c'est pas du tout les filmer.
C'est même pas qu'il savait pas les filmer, c'est juste qu'il s'en fout. C'est pas ce qu'il a, il s'en fout un peu. Voilà. Mais il y a un moment, il y a une scène de liesse entre les différentes bonzesses, et t'as l'impression qu'il va faire des cadres sérieux sur chacune d'entre elles, alors qu'il a dû plutôt faire ça sur un plan large pour vraiment montrer l'espèce d'unité
pour rebondir là-dessus, c'est ce qui est aussi très, très, très beau dans le film, c'est cette unité qui réunit toutes ces femmes au final.
Puis il y a un personnage tragique,
ça, moi, je trouve conventionnel. Moi, je trouve que c'est ce qui fait la force dramatique et émotionnelle du film, moi, de voir l'évolution de ces personnages, parce qu'ils évoluent. Et elles évoluent par elles-mêmes, on revient toujours à ça, mais aussi parce qu'elles s'entraident et qu'elles sont ensemble.
Mais il y a un très beau personnage mélodramatique.
Voilà.
Bon, en tout cas, qui est commis, qui est
frère, enfin, j'ai pas vu le film, mais à vous entendre sur le fond, en fait, ça ressemble à un film de Masato Arada, justement, de 97, qui s'appelle Bones Kogal, où justement une fille rencontre un groupe de jeunes filles qui se prostituent et arrive à se libérer justement du système japonais à travers l'argent qu'elle gagne par la prostitution et en profitant des hommes, justement. Et ça me fait penser un peu à ce que vous dites.
C'est pas tout à fait ça. Je vote quel film je parle, mais.
Ok, bah peut-être on va continuer sur les films qui étaient un peu marquants. Donc je sais pas, je vais continuer un tour de table comme ça, en parlant des coups de cœur du festival. Justin, toi, quel était ton coup de cœur de cette année à Kinotayo?
Alors, mon coup de cœur, c'était le film We Shall Overcome. Donc il y a un documentaire de Shie Mikami, donc c'est son deuxième film, et en fait, pour situer un peu la réalisatrice, donc c'est à la base, elle travaillait pour la télévision, elle était journaliste à la télévision, et en 95 elle s'est installée dans l'archipel des îles d'Okinawa, et donc le film est lié à ça, vu qu'elle avait déjà son premier documentaire était déjà de 2013 était déjà lié à un thème donc un peu écologique lié aux îles d'Okinawa, donc où c'est son premier film, hein, qui s'appelle Village Target, hein. Et donc ça traitait d'un village qui était victime, il y avait une base militaire américaine installée à côté, donc il y avait des avions militaires qui passaient par là, les entraînements militaires se faisaient là, et donc c'est les villageois qui se rebellaient contre cet aspect-là, cette utilisation-là. Mais le film avait eu déjà eu un impact vu qu'apparemment ils avaient réussi à faire fermer la base militaire.
Et donc, elle a arrêté complètement la télévision d'ailleurs, vous savez peut-être Martin.
Elle m'a pas dit oui, parce qu'elle trouvait qu'en réalité la télévision, vu qu'elle est très riche sur une télévision locale, en réalité elle trouvait que ces documentaires n'avaient pas d'impact en réalité sur le Japon, mais uniquement sur son île. Donc c'est pour ça qu'elle a créé sa boîte de production pour en réalité sensibiliser sur des sujets locaux l'ensemble du pays.
Et donc le nouveau film, donc We Shall Overcome, donc c'est un thème assez voisin du premier. Donc là, c'est donc à la fin des années 90, il y a une décision comme quoi de construire une nouvelle base militaire donc sur une des îles d'Okinawa, où apparemment il y a quand même un grand nombre, vu qu'apparemment c'était il y a 50 ans seulement que les Américains ont rendu cet archipel au Japon après la Deuxième Guerre mondiale. Mais malgré tout, il reste pas mal de bases militaires américaines installées dans l'archipel. Et donc là, le documentaire débute à la fin des années 90, où il est décidé de construire un nouvel archipel. Et donc il y a un groupe de citoyens qui se rebellent pour empêcher cette construction. Donc le documentaire se passe... il y a les premières images, ça doit dater de l'époque où elle travaillait à la télévision, où elle a dû en parler, où il y a des premières images en début de documentaire là-dessus. Et donc... on suit un groupe de citoyens tout en racontant leur histoire, leur rapport aux îles d'Okinawa. Donc il y a une personne une octogénaire qui a vécu justement la bataille d'Okinawa à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il raconte un peu comment elle a traversé l'horreur avec sa famille, sa mère et son frère, son jeune frère. Et donc elle a un rapport donc ça permet de ressentir le rapport vraiment très intime qu'elle a par rapport à ces lieux qu'elle ne souhaite pas voir dénaturés. On a d'autres groupes de personnages comme une famille donc avec un père qui essaie de transmettre cet amour, cet attachement à son fils et de lui faire partager cette lutte pour empêcher la construction de la base militaire.
Les deux jumelles, elles sont terribles, je trouve.
Excellent. Oui, en plus, il y a tout un groupe de personnages parallèles qui gravitent donc dans cette lutte. Et donc voilà, c'est un crescendo qui revient un peu sur l'histoire des îles, en même temps un crescendo dramatique qui raconte les espoirs et les déceptions que vont avoir tout ce groupe de personnages par rapport à ce projet-là. Donc par exemple, il y aura un élu qui va essayer de faire élire un gouverneur des îles qui sera contre cette construction. Donc c'est un vrai moment d'émotion où on sent que les choses peuvent changer. Puis finalement... ça n'a pas si bien tourné que ça.
Ça ne dure pas très longtemps, le moment de
fourrir. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, voilà, il y a toute une thématique sur l'évolution. Et d'après les interviews que j'ai pu lire, ça se ressent peut-être pas forcément dans le film, mais il y a une réflexion dans l'interview que j'ai pu lire de la réalisatrice où elle essaie aussi de traiter à la fois du gouvernement en place qui est très attaché à cette image un peu militaire du Japon. Et puis,
il y a eu 7 semaines sur le site, que vous pouvez lire aussi.
D'accord. Par et il y a aussi une question sur... ça rejoint ce que tu disais, qu'elle a essayé de créer sa boîte pour pouvoir parler à l'ensemble du pays, où apparemment elle essaie aussi de dénoncer une sorte d'apathie un peu du peuple japonais, où elle essaie de dépasser le cadre des citoyens d'Okinawa pour faire réagir un peu l'opinion sur ces questions-là, mais bon, on voit que ça fonctionne pas vraiment dans le film.
Ouais, malheureusement, moi je trouve que le sujet est extrêmement intéressant et tous les personnages dont tu parles sont vraiment très touchants. Enfin voilà, on a envie de les suivre et la réalisatrice aussi. Et peut-être un peu trop parfois. Enfin, c'est vrai que le film dure du retour de 2 heures et on sent un attachement au personnage.
En fait, c'est ça parce
qui fait qu'elle crée des scènes extrêmement répétitives.
Parce qu'à la scène de clôture, il y avait une petite interview qu'ils ont faite lors de la cérémonie de clôture du festival. Et elle disait qu'elle avait noué un lien vraiment. Très intime avec tous les groupes, vu que c'est depuis 97, donc ça fait quasiment 20 ans que.
Et on sent cette proximité.
Qui est fréquente, donc on ressent vraiment cette proximité.
Après, je trouve qu'elle a. Elle a pas forcément un talent. On sent aussi qu'elle vient de la télé, elle utilise des artifices qui peuvent être un peu télévisuels, comme l'utilisation de cartes Google sur certains moments, des artifices qui tiennent plus du reportage. Que du cinéma qui moi dans la forme m'intéresse un peu moins que le sujet dont elle traite.
Moi j'ai quand même trouvé ça m'a pas gêné tant que ça parce qu'il y a au niveau du montage du crescendo dramatique qui a réussi à installer où c'est pas télévisuel, on sent quand même il y a il y a une sorte de montée.
Et par contre, je trouve qu'elle aurait pu resserrer un peu plus parce que au bout du troisième sitting où ils s'arrêtent et tout devant le machin, ils arrêtent tel ou tel camion. Ouais, voilà, ça se répète un peu. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je dis pas qu'il faut pas les montrer, mais en tout cas, on s'intéresse un peu moins. Je pense qu'elle a dû axer un peu plus sur cet aspect, justement, de la lutte, qui est un peu plus intéressant. Après, pour le petit côté, voilà, purement cinéphile, il y a ce petit moment de grande émotion. On voit Bunta Sugawara qui est justement là pour soutenir l'élu qui est en campagne.
Et qui est mort quelques jours après.
Donc Bunta Sugawara, je ne sais pas si les gens se souviennent, mais bon, voilà, c'est un grand acteur japonais qui a joué dans beaucoup de films.
Son code d'honneur d'ailleurs, qui était.
Voilà, de Kijifu Kasaku, qui a été dans beaucoup de films de Yakuza. Il avait une voix aussi très très reconnaissable. On l'avait entendu en tout cas dans le Voyage de Chihiro. C'est lui qui faisait le personnage, c'est l'araignée. Voilà. Et à côté de ça, c'était en plus d'être un grand acteur, c'était quelqu'un de très très militant et très attaché à la cause écologique et tout ça.
Donc, après, au niveau de la répétitivité, moi je trouve c'est
répétition.
Une répétition, des cités. Alors c'est vrai qu'il y a un côté, oui, que ça revient en boucle, mais justement ça contribue au crescendo dramatique vu que. On sent le côté militant, on est à fond avec eux dans les premiers sittings, et on sent ce côté désespéré où il y a l'intensité, mais on sent que c'est inutile finalement, que ça changera rien.
Je dis pas que c'est pas inutile, mais je pense qu'il aurait fallu resserrer un petit peu parce que sur un peu plus de 2 heures, c'est un petit peu long à force.
Mais je pense que c'est un peu volontaire, parce qu'on sent cette lassitude aussi au niveau du spectateur, et on sent que ça ne servira à rien. Quoi.
Oui.
Et ça joue aussi dans la perception, même si c'est vrai qu'il y a plusieurs scènes de ce type, mais je trouve que même la dernière qui arrive, où ils sont toujours aussi motivés, et malgré tout, on sent que...
Le dernier menu défaut à propos de ce film, mais que, je soutiens quand même, parce que là, la cause vaut le coup, en tout cas, d'être... soutenu, c'est que c'est un documentaire qui est fait vraiment pour un public japonais. Voilà. Elle cherche vraiment à sensibiliser les gens de son pays. Je pense que s'il avait vraiment voulu faire un documentaire pour sensibiliser les gens à l'international, dans ces cas-là, elle serait revenue un peu plus en détail sur qu'est-ce qu'Okinawa, qu'est-ce qu'a subi Okinawa dans la guerre. Il y a un peu plus.
Ça l'évoque un petit peu, quoi.
Ça l'évoque un petit peu, mais je pense qu'il a, sur justement tout le commerce qu'il y a autour des casernes et tout ça. Voilà, c'est très très vite vu. Il a fait un truc un peu plus didactique, un peu plus scolaire, mais en tout cas
mais c'est un peu comme ce qu'on dit, c'est rattaché au personnage, vu qu'elle passe toujours par les protagonistes pour dévoiler les informations. Donc c'est vrai que ça va pas plus loin, c'est sûr.